Merci beaucoup d'être venu écouter la présentation par Mathias Hénard de son tout nouveau roman qui s'intitule « Parle-leur de bataille, de roi et d'éléphant » chez Actes Sud. Je suis spécialement heureux d'accueillir ici Mathias Hénard parce qu'il faut que je dise que j'ai adoré véritablement son livre précédent, « Zone », qui est paru en août-septembre 2008 et qui pour moi est un livre majeur, vraiment, un immense livre. Et je regrette un peu peut-être que la taille de ce roman, qui fait un peu plus de 500 pages, ait pu dissuader certains lecteurs, alors que quand on entre dans l'écriture de Mathias Hénard, on est véritablement porté par son souffle, comme assez rarement en littérature française. Alors cette fois-ci, il nous propose un roman beaucoup plus court, qui fait environ 150 pages, et qui s'intitule « Parle-leur de bataille, de roi et d'éléphant ». Alors ma première question va porter sur ce titre. En exergue, vous donnez en épigraphe une phrase qui est extrêmement intéressante, et qui est empruntée à un livre de Rudyard Kipling, la voici. « Puisque ce sont des enfants, parle-leur de batailles et de rois, de chevaux, de diables, d'éléphants et d'anges, mais n'omets pas de leur parler d'amour et de choses semblables. » Alors je voudrais vous demander pourquoi le choix de ce titre, est-ce une sorte d'injonction ou est-ce un conseil? Et d'autre part, de qui et à qui?
Bien, alors pour préciser un peu, bonsoir tout d'abord, et merci d'être venu aussi nombreux pour m'entendre. D'abord, préciser un peu peut-être les circonstances de cette citation, c'est-à-dire que ça se trouve dans l'introduction d'un livre de Kipling qui s'appelle « Au hasard de la vie » et qui est un recueil de nouvelles. Et dans l'introduction, c'est Kipling lui-même qui est en Inde, dans un village, et qui est face à un vieux sage indien qui lui demande « Ah, toi qui viens d'Angleterre, qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Et Kipling répond « Je suis écrivain. » Et alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, je raconte des histoires. Et petit à petit, le vieux sage indien lui donne des conseils d'écriture et lui dit « Puisque ce sont des enfants, puisque nous sommes tous des enfants, parle-leur, entre autres, de batailles, de rois et d'éléphants, mais n'oublie pas de leur parler d'amour et de choses semblables. » Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est, comme vous le savez peut-être, le récit de la visite de Michel-Ange à Istanbul au printemps 1506. Et pourtant, si. C'est-à-dire que si j'ai choisi ce titre, c'est justement parce que c'est un peu le... Je pense que le récit, l'histoire, le fait de parler de rois, de batailles, d'éléphants et de choses et d'autres, est un peu non seulement constitutif de l'histoire de l'humanité, mais aussi de l'histoire de l'art. Et donc, rejoindre la littérature à travers Rudyard Kipling, grand narrateur des choses indiennes, de l'Orient, du livre de la jungle, et ainsi de suite, et Michel-Ange, c'était Michel-Ange qui n'est que poète et qui n'a pas écrit de récit, et l'histoire de l'art, c'était rassembler cette grande fresque de l'humanité qui est le récit et la parole donnée et transmise.
Alors justement, peut-être que le narrateur, il y a un narrateur du récit, mais qui n'est pas très présent, enfin qui est très discret, mais il y a un narrateur tout de même, et c'est peut-être ce narrateur qui, en quelque sorte, a écouté ce conseil, peut-être.
C'est le narrateur, en l'occurrence, ce qu'on appelle un terme plus technique, un narrateur omniscient, c'est-à-dire qui sait à peu près tout ce qui s'est produit, et en l'occurrence c'est moi, et on ne va pas le cacher, c'est moi qui parle, même si je ne dis pas « je », je ne m'exprime pas à la première personne, c'est bien moi qui raconte cette histoire. Et en tant que porteur du récit, oui, cette injonction m'est aussi faite à moi. Je vais vous parler de batailles, de rois et d'éléphants.
Alors, ce qui est remarquable, c'est que le narrateur procède en quelque sorte à une enquête. C'est à une enquête qu'il procède autour de la biographie de Michel-Ange. Alors, je vais peut-être vous demander pourquoi ce choix de Michel-Ange ensuite, mais il procède à une enquête, et il procède à une enquête à partir de ce qu'on pourrait appeler des blancs dans les biographies existantes de Michel-Ange, à un moment où, en 1506, au printemps 1506, comme vous venez de dire, Michel-Ange est en bisbille avec une très forte personnalité qui est le pape Jules II, qui lui a commandé un tombeau. Et alors justement, ça fait partie aussi du titre même de votre sujet, les rois. Alors il n'y a pas véritablement de roi ici, mais il y a peut-être encore pire, si je puis dire, ou plus grand que des rois. Il y a donc le pape qui est présent, Jules II, et aussi le sultan. Bon, donc les rois sont là, si je puis dire. Mais donc le narrateur procède à une enquête, et c'est cette enquête dont il va nous donner à travers des pages qu'il faut tourner, qui se tournent, qui sont assez courtes d'ailleurs, chaque fois, il nous donne des éléments d'une sorte de puzzle à reconstituer concernant ce séjour de Michel-Ange à Istanbul. Alors d'abord, je voudrais vous poser une question justement sur le choix de ce personnage de Michel-Ange. Pourquoi Michel-Ange et pourquoi Michel-Ange en 1506? Michel-Ange est né en 1475 et il va mourir en 1564, je crois, oui, 1664, à l'âge de 89 ans, donc il va avoir une très longue vie. Mais, je ne sais pas si vous allez dire qu'il est venu ou pas à Istanbul, comment vous avez... Bon, quels sont les éléments qui vous font envisager cette venue de Michel-Ange à Istanbul? Alors, d'abord, pourquoi Michel-Ange?
Mais en fait, on ne choisit pas forcément son sujet, c'est surtout les sujets qui nous choisissent. Et tout ça part d'un hasard, d'une circonstance... de la vie, j'étais à Rome, j'ai passé quelques mois à la Villa Médicis, à Rome, et il y a une bibliothèque absolument magnifique. Et donc un jour, je me promenais dans la bibliothèque, j'ai pris un livre un peu au hasard, et c'était un volume des vies de Giorgio Vasari, un des grands historiens de l'art, les premiers d'ailleurs, qui écrit à la fin du XVIe siècle, la vie des grands peintres, sculpteurs et architectes. Et il y a un volume, un demi-volume qui est consacré à Michel-Ange. Et c'était le volume que j'avais pris. Alors, même si j'ai commencé par étudier l'histoire de l'art, je connaissais assez mal la biographie de Michel-Ange, je connaissais plutôt bien ses œuvres romaines, surtout, à part quelques sculptures qu'on peut voir ailleurs. Et donc, je me suis mis à lire. Et je suis tombé sur cette phrase absolument incroyable. Après le récit de la fuite de Rome et donc de cette querelle avec Jules II, Michel-Ange se réfugie à Florence, chez lui. Et là, dit Vasari, il reçut une invitation du sultan de Constantinople pour construire un pont sur la Corne d'Or. Alors, vous imaginez ma surprise. Comment ça? On a invité Michel-Ange à Constantinople pour construire un pont sur la Corne d'Or. Et ensuite, Vasari passe à un tout autre sujet. Ensuite, il dit, et après, au mois d'août, Michel-Ange part à Bologne, effectivement. Il va rester quelques mois à Bologne, il va faire une commande à Bologne. Et ensuite, il se réconcilie avec Jules II, et qui lui demande, au lieu de poursuivre les études pour son tombeau, qui lui confie la réalisation de la chapelle Sixtine. Et donc, j'ai vu ça, et je me suis dit, mais ça, c'est incroyable. Et donc, j'ai cherché à savoir plus. Et je me suis tout de suite tourné vers l'autre biographe contemporain de Michel-Ange, qui est Ascanio Condivi, qui était très proche de l'artiste, à qui Michel-Ange lui-même n'a pas dicté ses mémoires, mais a raconté sa vie, et que Condivi nous livre à son tour. Et là, Condivi était un peu plus précis. Il y avait quatre lignes au lieu d'une. Condivi disait effectivement qu'un jour, Michel-Ange avait reçu la visite de moines franciscains, alors pourquoi les franciscains, allez savoir, qui venaient donc envoyés par le sultan d'Istanbul, lui proposer, moyennant une forte somme d'argent, de construire un pont sur la Corne d'Or. Et il mentionnait aussi, si mes souvenirs sont bons, le fait que cette commande avait déjà été passée à Léonard de Vinci. Alors donc je me retrouvais avec une histoire d'autant plus fabuleuse que j'avais là un sultan à Istanbul, Michel-Ange à Florence, Léonard de Vinci qui à cette époque-là se trouve non pas à Florence mais à Milan. Enfin, j'avais vraiment tout un monde qui s'ouvrait en quatre lignes. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en sache plus. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Parce que après, la biographie reprenait, donc, quatre mois plus tard. Voilà. En gros, pour les biographes, enfin, les deux que j'avais consultés jusque-là, il ne se passe rien pendant quatre mois. Et ensuite, on retrouve Michel-Ange à Bologne. Bon. Donc, j'ai cherché à lire des biographies, d'abord contemporaines, de Michel-Ange, des spécialistes qui est écrit aujourd'hui. Et tous reprennent cet épisode, mais aucun ne mentionne ce qui s'est produit pendant ces quatre mois de trou avant de le retrouver à Bologne. Donc je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, il est peut-être allé. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, même s'il n'y était pas allé, ça aurait été très bien qu'il l'eût fait. Et qu'est-ce qu'aurait pu devenir ce pont ? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir là ? Quel pont aurait-il dessiné ? S'il était allé à Constantinople, qui aurait-il rencontré ? C'était qui ce Bajazet ? Et donc je me suis plongé dans la... Non seulement très profondément dans les traces que nous avons de Michel-Ange, c'est-à-dire ses textes, parce qu'il faut savoir qu'il a beaucoup écrit des poèmes, et une quantité impressionnante de lettres qui nous sont conservées, donc certaines de cette époque, que je cite telles quelles dans le livre, je les traduis moi-même, mais je ne les invente pas. Elles sont c'est notamment toute la correspondance qu'il y a avec ses frères, avec ses maîtres, ensuite avec ses commanditaires. Enfin, on a l'archive Michel-Ange est vraiment très important par les dessins. Et puis ses poèmes, qui, même si la grande majorité de ses textes sont datés, sont plus tard dans sa vie, hein, à partir du moment où il commence à avoir 40 ans, il écrit plus, il y en a déjà quelques-uns qui sont de cette époque-là. D'un côté, Michel-Ange, de l'autre, les Turcs, je me suis rendu à Istanbul, j'ai vu l'endroit où le pont devait être construit, j'ai regardé si les histoires, les chroniques ottomanes de l'époque retenaient ou nous apprenaient quelque chose de ce séjour de Michel-Ange. Et j'ai vu ce qui se passait à Constantinople au moment où il y serait allé. C'est-à-dire cette fin d'année 1506, cette fin de printemps, début d'été 1506. Et tout ça m'a amené à tout un réseau de personnages historiques, des marchands florentins qui se trouvaient là à ce moment-là, on le sait par les archives ottomanes, un poète ottoman qui était le secrétaire du grand vizir de l'époque, Ali Pacha, enfin, tous ces personnages qui sont attestés, dont on a beaucoup de traces, hein, évidemment, chez les Ottomans, toutes les chroniques en parlent. Et je me suis dit, bah, forcément, puisque Michel-Ange est allé de telle date à telle date à Istanbul, il a forcément rencontré ces gens-là. Donc il ne tenait qu'à moi de raconter cette histoire, ce que j'ai fait plus tard, un peu plus tard, deux ans plus tard, oui.
Alors on retrouve ce double thème, enfin ce triple thème à la limite qui est présent dans votre titre, des batailles, c'est-à-dire de violence. Il s'agit ici surtout de batailles pour le pouvoir, des batailles un peu secrètes pour le pouvoir. Bon, le roi c'est le sultan, c'est aussi le grand vizir, bon les éléphants c'est l'Orient, etc. Bon alors... Parmi les personnages, effectivement, qui sont présents à Istanbul à ce moment-là, d'abord, il y a tout un imaginaire européen à propos des Turcs. 1453, c'est pas si loin que ça, c'est la prise de Constantinople par Mehmet II, qui est, je crois, le grand-père de Bajazet. Et donc, bon, ensuite, une grande date importante aussi, c'est 1492, alors que vous n'envisagez pas comme la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais comme l'expulsion des derniers Arabes et des Juifs du dernier royaume. Oui, allez-y.
Les deux sont présents dans le livre, en fait. Ah bon ? Je fais allusion... disons qu'on est à un moment tournant, enfin, si vous permettez de vous interrompre. On est vraiment à un moment tournant, et qui est que, d'un côté, le dernier royaume musulman d'Espagne tombe, les rois catholiques prennent Grenade, les juifs et les musulmans qui refusent de se convertir sont expulsés. C'est Bajazet lui-même qui envoie sa flotte chercher les juifs pour les installer dans son empire, et principalement dans ce faubourg nord de Constantinople, où doit arriver le pont de Michel-Ange. Et au même moment, on découvre les Amériques. C'est-à-dire qu'en 1506, la colonisation du Nouveau Monde a déjà commencé. Et un des personnages du livre, d'ailleurs, il fera allusion en disant, voilà, la lumière s'éteint quelque part, elle se rallume ailleurs.
D'accord. Bon, donc ce sont des dates qui sont très importantes et la biographie de Michel-Ange s'inscrit tout à fait dans ce cadre historique-là. Mais justement, bon, alors, il y a un imaginaire occidental, enfin, européen, concernant les Turcs, dont on a par exemple quelques traces, par exemple dans la pièce de Racine qui s'appelle justement Bajazet, qui est une pièce... qui date de, je ne sais pas la date exacte, je parle de 1670, chose comme ça, 72. Et aussi, un siècle plus tard, dans l'enlèvement au sérail de Mozart, par exemple. Bon, et quand Spinoza, dans le traité politique, cherche un exemple à contrebalancer aux démocraties grecques, il pense aux grands Turcs, justement. Alors, quand on visite le sérail à Istanbul, on est impressionné notamment par la fontaine dans laquelle le bourreau lavait son sabre après avoir procédé à des décapitations. Alors, ce que j'ai tout particulièrement admiré dans votre livre, c'est que vous citez cette fontaine, même un épisode de décapitation, mais d'une manière extrêmement légère, si je puis dire, souple, sans vous appesantir sur l'aspect horrifiant, peut-être, de cette scène. Vous insistez justement sur le fait que la docilité du condamné venait peut-être au fait qu'il avait avalé de l'opium. Alors le sérail, c'est le sérail de Topkapi, c'est un lieu fabuleux. C'est le lieu, un lieu de pouvoir, un lieu secret. Il y a plusieurs cours, la première cour, la deuxième cour, la troisième cour, etc. Bon. Et alors aussi un élément intéressant dans le roman, ce sont les batailles de pouvoir. Et j'ai cherché la biographie de Ali Pacha, que l'on trouve traduit sous divers noms, Hakim Ali Pacha ou Atik Ali Pacha. Et j'ai trouvé des choses tout à fait passionnantes. Ce Pacha a été grand vizir à deux reprises. Une première fois avant 1506 et la deuxième fois, justement, à partir de 1506 jusqu'à sa mort. Ce grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre du sultan, est lui-même d'origine européenne. Il est né en Bosnie. Et ce que j'ai trouvé aussi en cherchant, c'est qu'il était eunuque aussi. Il était eunuque. Et alors, ce grand vizir. Ça vous le citez très, enfin vous le dites, c'est le premier grand vizir de l'histoire du sultanat, qui va mourir dans une bataille, et il va être tué par une flèche sur la frontière orientale avec la Perse. Et donc ce grand vizir est un personnage qui est important, et justement vous faites rencontrer Michel-Ange avec ce personnage, et aussi avec son secrétaire qui est un grand poète ottoman. Et donc vous en profitez pour faire rencontrer ces deux personnages, le personnage de Messie et le personnage de Michel-Ange. Donc deux poètes, puisque Michel-Ange est aussi poète. Vous pourriez nous parler de cette configuration de rencontre de deux poètes?
C'est non seulement la rencontre de deux poètes, mais aussi de deux artistes, Messie, dont on sait peu de choses, finalement. Il s'oppose à Michel-Ange sur bien des aspects, et notamment par le fait qu'on sait assez peu de choses de sa vie. Autant la vie de Michel-Ange est connue presque au jour le jour, autant celle de Messie est un peu une énigme. On connaît aussi presque toutes les œuvres de Michel-Ange, il y en a très peu qui ont été perdues, qui ont disparu, il y en a quelques-unes. Mais elles sont rares par rapport à l'immensité de son œuvre. En revanche, Messie, il nous reste très très peu de ses poèmes et aucune de ses œuvres graphiques. Parce que ce qui les rapproche aussi, c'est que Messie est calligraphe. Il n'est pas uniquement poète, il est aussi calligraphe. Et c'est cette calligraphie qui lui vaut d'être engagé comme secrétaire du vizir. Il est le protégé du vizir pour la poésie et en plus son employé. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette rencontre, c'était justement que ces personnages s'opposent sur bien des aspects, et qu'en même temps, ils se rencontrent et échangent et transforment l'un et l'autre leur point de vue réciproque.
Oui, et alors là, justement, vous les faites rencontrer sur un terrain, d'ailleurs d'une manière très très discrète de votre part, sur un terrain qui est peut-être une des clés de l'œuvre de Michel-Ange, qui est le terrain de leur relation, qui est une relation, comment la qualifier? Est-ce que c'est une relation amoureuse? C'est peut-être pas le mot, parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que, bon, Messie a écrit un grand poème sur les garçons, les jeunes garçons d'Edirne, hein, c'est un de ses poèmes les plus connus, donc c'est une poésie, si vous voulez, d'inspiration homosexuelle, et la poésie de Michel-Ange est assez complexe, il y a des lettres à la fin de sa vie à Cavalieri, Tommaso de Cavalieri, et aussi à une femme aussi, qui était une Colonna, etc.
Victoria Colonna.
Voilà, bon. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'au fond, à travers la fable, en quelque sorte, on découvre un aspect de Michel-Ange, qui est peut-être un des éléments de sa création, qui est une certaine difficulté dans le rapport amoureux, disons.
Alors ça, c'est mon Michel-Ange à moi, j'allais dire. Évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on connaît un homme ? Déjà, un homme vivant, c'est difficile parfois de dire si on le connaît vraiment ou pas. Donc imaginez quelqu'un d'il y a 500 ans. Même si on a beaucoup de traces, donc de textes, de lettres, de poèmes et ainsi de suite, c'est très difficile de dire quels étaient, évidemment, c'est même impossible bien sûr, de dire quels étaient ses sentiments réels. Tout le reste est supputation, donc... Moi, je suis romancier, et ce que je décris là, c'est mon Michel-Ange à moi. Sans doute, on pourrait en écrire des centaines. Et dans le roman, c'est vrai que, à partir de tout ce que vous avez décrit, j'envisage un Michel-Ange, ce qui à moi me semble plausible, mais peut-être à d'autres, ou à des spécialistes, peut-être pas du tout. J'envisage un Michel-Ange tellement passionné par la perfection et la beauté, que je dis ça et Marie-Lou rentre dans la salle. Voilà. Marie-Lou rentre dans la salle. Et tellement passionné donc par la beauté que il n'arrive pas à l'atteindre. Voilà. C'est pas tellement la beauté, la réalité charnelle des corps qui l'intéresse, mais quelque chose qui est au-delà. Et donc, dans le livre, le personnage de Michel-Ange va chercher, à travers l'amour, à atteindre quelque chose qui est inatteignable. Et donc, sa relation, par définition, soit avec Messie, l'homme, soit avec la danseuse ou le danseur andalou, androgyne, dont je suis sûr que vous allez me parler dans deux minutes, ne peut pas aboutir pour cette raison. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse est au-delà. Voilà.
Alors justement, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont ces éléments qui ne sont pas dits, et qui ne sont peut-être d'ailleurs pas tout à fait conscients chez Michel-Ange, du moins à ce moment-là de sa vie. Ils le seront peut-être plus tard, au moment de la vieillesse. Mais il me semble qu'il y a toute une philosophie, en quelque sorte, qui est présente, et qui est une philosophie un peu platonicienne, une certaine différence entre l'âme et le corps, l'idée et le corps, comme s'il y avait aussi une sorte de frein, d'inhibition de sa part, mais une inhibition qui va peut-être se révéler féconde dans sa création. Alors, un des éléments aussi passionnants de votre livre, c'est qu'à un moment donné, vous esquissez, mais toujours de manière très légère, très discrète, mais on peut les découvrir, vous essayez de vous demander ce que l'œuvre de Michel-Ange doit à son passage à Istanbul.
Alors, deux choses. Bon, pour revenir au sujet de Platon, enfin du néoplatonisme plutôt, effectivement, Michel-Ange a été formé dans le milieu des Médicis à Florence, qui était très imprégné, comme beaucoup de centres, la Renaissance tardive et en Italie, des idées néoplatoniciennes. Et donc, on peut le retracer assez facilement, notamment dans ses poèmes et sa relation avec certaines idées mystiques. Et ça, d'une part. Donc là, ce que je dis de ce point de vue-là est plus ou moins plausible historiquement. Et d'autre part,
L'influence du néoplatonisme à Florence, justement. Oui, parce qu'on ne peut pas oublier que quand, en 1453, ou un peu avant, quand il y avait la menace ottomane sur l'Empire byzantin, il y a énormément de livres et de personnes aussi, d'individus, qui ont débarqué en Italie, d'abord à Venise, sans doute, et puis ensuite à Florence. Et beaucoup de la culture antique, platonicienne notamment, est arrivée à Florence à travers, par exemple, l'œuvre d'un Marsile Ficin. Et quand Michel-Ange se développe à la cour des Médicis, tout ça, c'est très frais, c'est très présent.
Oui, mais il y avait un deuxième aspect que je voulais parler, j'ai oublié. Ça me revient.
Oui, sur les inhibitions de Michel-Ange, peut-être sur. Non, oui, la question c'était qu'est-ce qui dans l'œuvre de Michel-Ange est une trace d'Istanbul.
Alors si j'admettais, puisque j'étais sûr qu'il y était allé. Donc s'il y est allé, forcément, très certainement, il y a des traces de ce passage dans son œuvre. Et donc j'ai relu l'œuvre de Michel-Ange à la lumière de ce passage supposé à Istanbul. Et effectivement, on peut trouver des traces de. Alors, certains diront qu'elles sont indirectes, et c'est sans doute le cas d'ailleurs, de quelque chose d'Orient dans l'œuvre de Michel-Ange. Et notamment, alors ça, c'est attesté puisqu'on le possède même, ces plans. Les fameux plans de Sainte-Sophie, dont Michel-Ange s'est en partie inspiré lorsqu'il dessine le tambour de la coupole de Saint-Pierre. Et ces plans sont à la Bibliothèque Vaticane, et on sait que Michel-Ange les avait vus puisqu'il en parle dans une de ses lettres à Saint-Gallo. Donc, ça déjà c'est sûr, Michel-Ange a vu Sainte-Sophie. Alors, peut-être il n'a vu que les plans, bon. Mais en tout cas il a vu Sainte-Sophie. Et après, Et on peut retrouver comme ça, donc dans des figures de la chapelle Sixtine, qui était sa grande œuvre la plus proche du moment où il va à Istanbul, la trace de ce passage. Et donc j'imagine que certaines scènes, et notamment les scènes bibliques dans un coin de, par exemple, Judith et Holoferne, ou certaines esclaves qui se trouvent de l'autre côté, sont inspirées par son séjour à Istanbul, et même la figure centrale, Adam, dans la création. J'aime croire qu'il s'agit du portrait de ce fameux Messie, ce qui mettrait un poète ottoman musulman au milieu du Vatican, ce qui me semblait tout à fait subversif. Voilà.
Et ce qui est magnifique dans votre écriture, c'est que tout cela, vous le faites sans aucune lourdeur, sans aucune trace d'érudition.
Pas d'éléphant, quoi.
Oui, absolument. Et donc, il faut le décrypter en quelque sorte. Hein, vous n'insistez jamais, c'est d'une légèreté parfaite. Alors, il y a une petite question. La seule chose que je n'ai pas réussi à retrouver, à partir de vos indices, vous parlez d'un rapport entre une bibliothèque à Istanbul et la bibliothèque des Médicis. Et alors, bon, il y a des bibliothèques qui sont assez célèbres, mais qui sont postérieures. Alors, je suppose que le sultan Bayazid ou Bajazé avait une bibliothèque, alors peut-être.
Bien sûr, il avait une immense bibliothèque.
Vous l'avez visitée?
Oui, bien sûr, le complexe de la mosquée de Bayezid, qui est une des grandes mosquées sultanesques d'Istanbul, la première, à part la mosquée du Conquérant, c'est le premier grand ensemble que construit un sultan. Bayezid est aussi un très grand bâtisseur, et notamment, il construit une gigantesque mosquée avec tout un ensemble où il y a une madrassée, donc une école religieuse, un restaurant pour les pauvres, et une bibliothèque. Et c'est cette bibliothèque que visite Michel-Ange.
Et justement, cette mosquée de Bajazé a été terminée en quelle année? Devinez, 1506.
Et Michel-Ange la voit d'ailleurs. Parce qu'on lui en parle, on lui propose d'aller la visiter et il dit que bon, ça ne l'intéresse pas trop.
D'accord. Et donc, apparemment, une construction pour les Médicis à Florence aurait été plus ou moins inspirée de sa bibliothèque.
Vous savez, il n'y a rien qui ressemble plus à une bibliothèque qu'une autre bibliothèque. Donc, le principe est un peu le même. Effectivement, ça me faisait très plaisir d'y voir là un reflet d'une bibliothèque orientale, aller savoir ce qui s'est passé réellement.
D'accord. Alors peut-être que je vais en venir maintenant au personnage que vous appelez l'Andalouse. Alors, là encore, au niveau des dates, le récit est extrêmement bien ficelé, puisque 1492, c'est très proche de 1506. Et effectivement, quand on visite Istanbul, ce qui a été aussi mon cas, même si je ne suis pas resté longtemps, je me suis promené aussi dans le quartier juif, qui se trouve au nord d'Istanbul, et où il y a encore des synagogues dans lesquelles les chants sont en ladino, c'est-à-dire dans cette langue des juifs espagnols, hein, et une langue que l'on retrouve par exemple parlée par je vais avoir un trou. Comment s'appelle ce prix Nobel de littérature qui était né sur les bords du Danube en Bulgarie et qui ensuite est devenu un grand écrivain de langue allemande? Canetti,
Canetti.
Elias Canetti. Voilà, Elias Canetti. Elias Canetti, la famille Canetti parlait le ladino.
La communauté ladino est encore très vivante à Istanbul, et on jusqu'à il y a peu, alors je suppose que c'est encore le cas, on éditait même un journal, une espèce de revue en ladino. Le ladino étant de l'espagnol du 15e, 16e siècle. Tout à fait compréhensible, du moins à l'écrit, pour quelqu'un qui sait l'espagnol. L'orthographe est très étrange, mais c'est tout à fait lisible. Et on publie encore à Istanbul, dans cette langue. Il y a une communauté de locuteurs, même si beaucoup ont émigré en Israël. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les rois catholiques expulsent les Juifs d'Espagne, Yazé, comme je vous l'ai raconté, Yazé les réinstalle dans l'Empire. Et la seule contrainte qui concernait les Juifs dans l'Empire ottoman était qu'ils ne pouvaient habiter à moins de 100 mètres d'une mosquée. C'était le seul règlement d'urbanisme d'Istanbul. Donc ils étaient libres de s'installer à peu près partout, ce qu'ils ont fait. Mais le sultan, en compensation de leur départ d'Espagne, a pris aux Espagnols latins deux ou trois églises qu'il possédait dans le nord de Constantinople et il leur a dit, ben voilà, ça fera une mosquée pour les musulmans d'Andalousie et une synagogue pour les juifs d'Espagne. Quelque sorte de une compensation. Et donc, beaucoup se sont installés dans la partie nord, hein, ce qui correspond aujourd'hui aux quartiers qui sont au-delà de la forteresse de Péra, c'est-à-dire, on va dire, au nord, nord-ouest d'Istanbul. Et ouais, ça subsiste jusqu'à aujourd'hui.
Et alors, donc, ce personnage, alors c'est un personnage qui est important dans l'économie de votre récit, puisque ce personnage a la parole à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est par sa parole que commence le récit. Et le personnage y joue, il s'adresse à un tu qui est Michel-Ange, certainement. Quelquefois, c'est une parole qui est effectivement prononcée. D'autres fois, c'est une parole qui est seulement pensée. Donc, votre discours, vous êtes, je trouve, un écrivain du rythme, et il y a, comme dans Zone, il y avait des chapitres qui venaient s'interférer entre le discours intérieur du narrateur entre la gare de Milan et la gare de Rome. C'était là les seuls chapitres, d'ailleurs, avec, dans lesquels il y avait des points, des phrases avec des points. Eh bien, ici, vous avez de temps en temps cette parole qui est donnée à ce personnage un peu étrange, alors qui est un personnage androgyne, qui danse, qui chante, et dont on a du mal à déterminer le sexe, enfin, du moins de l'extérieur, et que vous finissez par appeler l'Andalouse. Bon, il faut bien... Enfin, il est difficile de maintenir l'ambiguïté totalement. Alors, c'est un personnage qui vit... Bon, c'est un personnage d'exilé, hein, et d'exilé, d'ailleurs, qui a mal digéré, si je puis dire, la fausse promesse qui a été faite à ce moment-là aux Arabes de Grenade. Hein, les rois catholiques leur avaient dit d'abord qu'ils demeureraient, qu'ils ne les chasseraient pas, et puis ils les ont chassés. Or, il y a une tradition ottomane qui a été maintenue d'ailleurs tout au long du sultanat. Le sultan savait s'entourer, et d'ailleurs même, très souvent, les épouses du sultan et les mères, les propres mères, ce qu'on appelle les valides sultanes, n'étaient pas des Turcs, mais étaient soit une Serbe, une Bosniaque, mm-hmm. une Russe, etc., etc. Bien. Et donc, les sultans savaient s'entourer et avaient une politique très éclairée de gouvernement. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu ?
Alors, je ne suis pas spécialiste d'histoire ottomane, mais effectivement, disons ce qu'il y a de très intéressant, surtout de spécifique dans le gouvernement ottoman, c'est le rapport à l'esclavage. C'est-à-dire que la plupart beaucoup d'hommes de pouvoir de l'Empire étaient ce qu'on appelle des coules, c'est-à-dire des esclaves du sultan. Alors attention, esclaves, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas de pouvoir. Esclaves, ça ne veut pas dire qu'ils soient enchaînés. C'était tout simplement des gens dont la condition était d'être attachés à la maison du sultan. Et c'était des enfants, généralement, ou des adolescents capturés, jeunes, ou tout simplement venus de leur plein gré, depuis les terres extérieures à l'Empire, ou à la limite de l'Empire, donc du Caucase, des Balkans, généralement de familles chrétiennes, et qui étaient ensuite entièrement formés à la cour pour obtenir des fonctions officielles. Donc on les retrouve dans l'armée, ce sont les janissaires qui vont petit à petit former un corps à part avec ses propres modes de reproduction et d'agrandir, enfin, et justement de recrutement toujours parmi ces esclaves d'origine chrétienne. Et ce sont aussi les hauts fonctionnaires de l'Empire. Donc, comme vous l'avez nommé, le vizir Ali Pacha lui-même. Et même les femmes de ce que, ici, en Occident, un mot aussi connoté que le harem, c'est-à-dire les concubines et épouses et mères du sultan, qui étaient souvent les personnages les plus puissants aussi de l'Empire, mais dans l'ombre, dans un tout petit empire personnel qui était les quelques pièces desquelles elles ne sortaient que très rarement, ces femmes étaient aussi souvent d'origine, ce que nous, on appellerait d'origine étrangère.
Et autre chose à propos justement du sérail, qui voisine, enfin la salle connue sous le nom de divan, voisine le harem. Et d'ailleurs, il y a une fenêtre grillagée, et on dit que le sultan assistait sans être vu, et il écoutait à toutes les conversations des ministres qui étaient présents dans cette salle. Alors, quelquefois, on appelle l'Empire turc la sublime porte. Alors, la sublime porte, elle ne se trouve pas dans le sérail de Topkapi. Hein, elle se trouve juste à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si à cette époque-là, d'ailleurs... parce que les scènes de pouvoir avec le grand vizir se trouvent apparemment dans la salle du divan. Et c'est là, d'ailleurs, que Michel-Ange, un jour, est introduit. Hein, il me semble que c'est dans cette salle que vous faites... Que ce produit que vous nous montrez, la réception par le grand vizir, enfin, les réceptions, il y en a à plusieurs reprises, de Michel-Ange, et ce n'est pas donc à ce qu'on appelle la porte, quoi, ou la sublime porte.
La porte n'est pas encore construite à l'époque. Ce qu'on appelle en arabe, en arabe prononcé la turque Babe Ali, la porte, la grande porte, la magnifique porte, c'est une porte tout à fait réelle qui donne entre, pour ceux qui sont un peu familiers à Topkapi s'en souviennent, ça donne entre la première cour et les jardins de Gülhane. Et ça, c'est construit bien plus tard.
D'accord.
C'est construit sous Suleyman, enfin bien plus tard, 50 ans plus tard. Et le nom, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que les contacts entre les Ottomans et l'Europe, à part les puissances italiennes, et notamment Venise, qui était déjà le cas, c'est un peu plus tardif, les contacts très étroits, ça date justement après Suleyman le Magnifique.
C'est lui, même avec François Ier, qui nous cette alliance.
Voilà, exactement. Et donc, la mode turque, qui arrive en France par la suite, est bien postérieure à ce que je décris moi, c'est 100 ou 150 ans plus tard. Et donc tous les mots qu'on associe à l'Empire, justement la sublime porte, sont bien postérieurs. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas dans le livre.
D'accord. Alors si on revient à ce personnage de l'Andalou, de l'Andalouse, c'est un personnage qui va avoir une certaine importance et dont le sort dans le récit est lié à des batailles de pouvoir. Et on s'aperçoit d'ailleurs que à cette époque, disons, de sa jeunesse, enfin de sa jeunesse, il a déjà 30 ans, Michel-Ange, à peu près, enfin un peu plus même, mais on s'aperçoit qu'en définitive, l'artiste qu'il est un peu joué par les puissances du pouvoir, enfin il est manipulé, et ensuite, disons, peut-être qu'il va être plus lucide ou plus conscient de ses manœuvres. Mais alors je voudrais justement que, aussi ce que vous laissez entendre, ne serait-ce déjà avec l'épisode des franciscains qui lui font passer cette invitation de se rendre à Constantinople, aussi le commerçant florentin chez lequel il réside, dans les entrepôts duquel il réside, il y a tout un tas de jeux de pouvoir. Et le calligraphe et poète Messie est un des pions, si je puis dire, de ce jeu de pouvoir. Alors il y a un autre personnage qui s'appelle Arslan, qui parle italien, qui connaît très bien Venise, etc., qui aussi intervient. Alors là, nous sommes au cœur de la question du pouvoir, qui qui était aussi un des thèmes de votre roman précédent, Zone. Alors, je voudrais que... Bon, moi, ce que j'ai adoré dans Zone, c'est que c'est pour moi un des livres lumineux sur la période contemporaine, et notamment sur la guerre. Sur la guerre, je trouve qu'il y a très peu de livres vraiment sur la guerre en France, et celui-là en est un. Et alors ici, bon, bien sûr, nous n'assistons pas à des batailles militaires, si je puis dire, mais il y a malgré tout des batailles de pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Alors, je peux vous parler des batailles de pouvoir qui sont dans le livre, en tout cas, mais ça, je pense que c'est vrai à toute époque, c'est-à-dire que les créateurs sont aussi les jouets et sont susceptibles d'être manipulés par les commanditaires, les instances du pouvoir. Et c'est d'autant plus vrai à l'époque où les peintres, sculpteurs, architectes, poètes dépendaient directement des puissants. Comme Michel-Ange dépend d'un des hommes les plus puissants de l'époque, qui est le pape, d'un côté, ou le sultan de Constantinople, de l'autre. Et donc, les créateurs eux-mêmes sont l'enjeu de ces luttes de pouvoir. Il faut savoir que le pape et le sultan de Constantinople ont été en guerre une dizaine d'années auparavant. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont en paix. Mais Bajazet a fait la guerre à Jules II dans le sud de l'Italie. Donc forcément, ça induit des rapports qui sont compliqués. Il y a des puissances qui ont toujours joué un balancement savant entre l'Est et l'Ouest, comme Venise, par exemple. Venise, va développer cette politique, ce qu'on pourrait appeler une réelle politique vénitienne au fil des ans et des siècles, qui consiste à, quand on est obligé de faire la guerre, à la faire de mauvais gré en prêtant quelques bateaux à ses alliés italiens ou européens, et tout de suite après, une fois une bataille perdue ou gagnée, se réconcilier avec les Turcs, faire une paix, obtenir une paix rapide qui préserve le commerce et préserve la République de la perte, pourtant irréversible, de la plupart de ses colonies. Une de leurs, si je peux faire un clin d'œil justement à Zone, une de leurs manœuvres comme ça les plus célèbres est celle après la bataille de Lépante, consiste à se réconcilier immédiatement avec la Turquie, avec les Ottomans, une fois la bataille de Lépante gagnée. Donc, les Vénitiens, on le sait, avaient développé tout un réseau d'espions, pas vraiment, parce que c'était des gens qui avaient un peu pignon sur rue, mais d'intermédiaires, on va dire, des messieurs bons offices, qui, que ce soit des Turcs ou des Levantins, des gens de toutes sortes d'origines à Venise ou à Istanbul, faisait des liens entre les deux puissances. Les marchands sont peut-être les meilleurs ambassadeurs, ou en tout cas les plus anciens qu'il y a à Constantinople. Ce marchand florentin là, que j'appelle Marenghi, qui était en fait l'ambassadeur de Florence auprès du sultan, il en a existé de très nombreux, et les marchandises que je cite précisément correspondent au chargement probable d'un bateau qui accosterait à Istanbul en 1506. C'est-à-dire, on importait beaucoup de tissus en laine et de fourrures, des tissus brodés, les brocarts, d'Italie, des miroirs et des bijoux façonnés, et dans l'autre sens, on rapportait des métaux précieux, des épices et toutes sortes de
les fourrures aussi précieuses. Peut-être
non, les fourrures c'était dans l'autre sens.
Ah bon.
Parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on ne commerçait pas directement avec les Russes pour les fourrures, mais généralement, tout ce qui était tissu, fourrure, venait de l'Europe.
Alors, je vais vous poser une question sur la longueur de ce roman, donc environ 150 pages. alors que Zone faisait 500 pages. Est-ce que vous vous êtes contenu quelque part ?
Non, c'est pas du tout. Il faut pas le voir comme ça, je crois. Chaque sujet a sa forme. Je disais que c'est pas forcément nous qui choisissons nos sujets, mais parfois les sujets qui nous choisissent. Ben de la même façon, la forme d'un livre est donnée par l'histoire. Sans doute quelqu'un d'autre aurait pu faire un très long roman, peut-être même y envisager plusieurs volumes sur le séjour de Michel-Ange à Istanbul. C'était pas du tout mon cas. J'avais quelques petites choses à raconter et ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé de lui donner la forme la plus proche du conte possible. C'est une petite histoire comme... pour ça, ce personnage dont on a parlé, celle qui parle dans la nuit, celle qui parle dans la nuit, c'est une version...
La nuit, c'est le premier mot du roman. Hein.
Et celle qui parle dans la nuit, c'est évidemment une version très personnelle de Scheherazade, mais qui est une de mes obsessions, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il fallait que ça ait cette dimension. C'est une nuit, voilà. Une nuit de mille et une. Bon, je vais dire, vous êtes feignant, vous auriez pu en faire mille et une, mais non, c'était pas le cas. Mais peut-être j'en referai d'autres, des comme ça. Mais...
Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage constitue une sorte de tentation pour Michel-Ange. Hein. Il s'approche d'elle, mais en même temps, il y a une distance qui demeure et qui va demeurer. Alors, est-ce qu'elle tient, à quoi tient-elle cette distance de la part de Michel-Ange, bien sûr. Hein. Il y a une forme de résistance de sa part. Il résiste en quelque sorte. Hein. Alors comment, enfin, est-ce que c'est lié à ce platonisme ? Est-ce que c'est lié ?
Ce que je disais, mais Michel-Ange, c'est avant tout quelqu'un qui ne sait pas comment atteindre la réalité de l'autre. Il est, encore une fois, il s'agit de mon Michel-Ange. Hein. On ne sait pas, on n'est pas du tout sûr qu'il était comme ça. C'est une personnalité assez complexe qui a du mal à aimer, tout simplement, à atteindre, hein, à avoir la modestie suffisante pour tendre réellement la main vers l'autre. Et donc, il se heurte toujours à un mur qui est lui-même. Et ce désir qu'il a de mettre de la beauté dans le monde, comme il dit, c'est-à-dire de l'art absolu, de la perfection artistique, il l'éloigne nécessairement de l'imperfection que nous sommes et que représente l'altérité.
D'où cette grandeur de son art.
Alors d'où, je sais pas si on peut faire un lien de conséquence. Ce serait plutôt peut-être dans l'autre sens, peut-être parce qu'il est tellement présent à d'autres mondes, il en est incapable d'être au quotidien, peut-être.
Alors c'est intéressant par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la figure du rapport entre Dieu et Adam, hein, les doigts qui ne se touchent pas en définitive.
Oui, c'est, je pense d'ailleurs le dire plus ou moins à un moment à la fin du livre. Mais effectivement, ces doigts qui en tout cas sur le plafond de la chapelle Sixtine ne se touchent pas.
Bon, bien, je pense qu'on peut peut-être donner la parole maintenant au public sur ce livre qui est si riche d'une manière aussi légère.
Disons que j'ai eu une carrière, on pourrait appeler universitaire, où effectivement j'ai écrit des articles scientifiques, des recensions d'ouvrages, mais pas tellement dans le domaine de l'histoire de l'art, bien plus dans le domaine de la littérature. Et des sciences humaines, en fait. Et à un moment, j'ai décidé de mettre fin à cette existence-là, enfin, ou plutôt on a décidé pour moi, et je me suis fâché avec l'université, j'ai été fâché pendant quelques années, et c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé une pratique que j'avais 15 ans auparavant, et qui était celle de la création littéraire, où je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas écrire autre chose que des articles et des mémoires. Mais au tout début de, enfin dans mes premiers livres, même si peut-être on pourrait y voir un aspect oriental, j'ai pas du tout pensé à utiliser des données historiques ou qui ont trait à un passé lointain que je pouvais avoir par ailleurs. Et c'est souvent finalement, on revient presque naturellement à ses premières amours d'une autre façon, hein, une façon détournée. Et dans mon cas, ça s'est fait assez naturellement. C'était, même si j'ai commencé à écrire sur de tous autres sujets, donc notamment la violence de guerre, qui était un autre aspect sur lequel j'ai enquêté, mais là, presque comme un journaliste ou un écrivain, en tout cas. Et la violence de guerre a été mon premier sujet. Mais petit à petit, ça s'est déplacé pour revenir à ce que je faisais avant et qui a un trait, en tout cas dans ce livre-là. On cite des poètes persans, des poètes turcs, des choses qui me sont très familières de par ma formation universitaire, où je rejoins justement ce que je pensais impossible à concilier, l'histoire de l'art d'un côté et puis l'Empire ottoman et la Perse du XVIe siècle de l'autre. Hein. Donc c'est un peu le hasard d'un parcours qui fait ça, mais c'était pas du tout prémédité, loin de là. C'est moi qui attribue le dessin et l'inventaire à Michel-Ange, au passage de Michel-Ange. Voilà. D'accord. Après, pour le reste, on n'en sait rien, comme je dis. Mais entre nous, il est fort peu probable qu'il y soit allé. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que moi, je pensais qu'il fallait qu'il y aille. Et donc, voilà, il y est allé là, aujourd'hui.
La reproduction du pont qui figure dans votre ouvrage est bien de Michel-Ange.
Non. Non, non. Non, c'est un camarade qui a recopié ce fameux dessin qu'on trouve à Istanbul. Je n'avais pas le droit de reproduire par ailleurs, et donc c'est un ami qui est bien meilleur dessinateur que moi qui l'a copié, tout simplement. Mais c'est étrange, cette histoire, parce que... si je peux me permettre... Donc, il y a quand même très peu de chances qu'il y soit allé, on est bien d'accord. Hein. Mais beaucoup de journalistes écrivent... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils vont vite et ne prennent pas le temps de regarder, de continuer. Mais il y a beaucoup de journalistes dans des médias très importants qui le prennent pour un fait accompli. Et donc, voilà, on va vous raconter le voyage de Michel-Ange à Istanbul en 1506, comme si c'était absolument certain. Et c'est bien ce pouvoir de la littérature aujourd'hui de finalement transformer l'histoire. Donc, et encore, on est que, je pense que d'ici un mois, c'est sûr, tout le monde sera sûr qu'il y est allé. Alors oui, il a fait encore 13, plus fort. Oui. Parce que ce que moi, je ne peux pas faire, c'est envoyer des gens à Istanbul pour voir le pont. Alors que Pierre Michin, il y a quand même beaucoup de lecteurs qui sont allés au Louvre pour chercher un tableau qui n'existe pas. Donc c'est encore beaucoup plus fort. Mais ce pont, bien sûr, il est symbolique. Ce livre a un aspect aussi de symbole de tolérance et de réconciliation. Et de rejoindre... ces doigts qui jusqu'ici ne se sont pas touchés. C'est sûr que j'avais cette idée-là si cette histoire m'a autant frappé, c'est bien sûr parce que pour moi elle jouait à beaucoup de niveaux, c'est-à-dire à la fois au niveau sur le plan personnel, dans mon propre parcours, mais aussi sur le plan politique, historique et littéraire. C'était vraiment une très belle phrase et donc le livre aimerait, si c'est possible, être un pont détruit, quoi, ou un pont à construire, un pont disparu. Voilà.
Il y a beaucoup de ponts, si je peux me permettre, célèbres dans la littérature qui a des rapports avec l'Empire ottoman. Il y a le pont sur l'Adrina d'Ivo Andrić. Il y a le pont d'Ismaël Kadaré, également. Et j'ai pensé aussi à un petit article très très beau de Georg Simmel qui s'appelle « Pont et porte », justement. Pont et Porte, qui est un très très beau texte, une réflexion justement sur, sur la porte et sur le pont. Et Istanbul, c'est d'abord le lieu, enfin le lieu est magique déjà, enfin le Bosphore, c'est un lieu absolument sublime. La vue qu'on peut avoir depuis la pointe du Sérail, là, c'est magique. On ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas non plus de prendre le ferry, de traverser d'une rive à l'autre. Et donc, ce thème du pont, il est très important, d'autant plus que c'est le passage entre l'Orient et l'Occident aussi.
Oui, oui, c'est sûr. Et alors, si je peux rajouter un pont contemporain, il se trouve que dans cette rentrée littéraire, il y a une coïncidence assez magnifique, qui est qu'une de mes amies... très chère, membre elle aussi du collectif Inculte, publie un pont, naissance d'un pont dans la rentrée littéraire, elle s'appelle Maïlis de Kerangal, et vous la retrouverez ici dans un mois. Voilà. Par hasard, on ne savait ni l'un ni l'autre, on s'en est rendu compte tous les deux, alors qu'on se fréquente assez fréquemment, on s'en est rendu compte en mai où. Ah, toi aussi c'est un pont ? Ah oui, moi aussi c'est un pont. Voilà. Donc un pont de plus.
Mais il faut dire que le pont, c'est au fond peut-être le remède à la bataille, justement. C'est l'autre aspect, c'est l'aspect de l'accord, de l'entente, du passage, alors que la bataille, c'est ce qui coupe.
Oui, même si on pourrait aussi parler du génie militaire qui construit beaucoup de ponts pour franchir des rivières. Le pont ne vaut... que pour ce qu'on y fait passer, pas tellement... C'est un symbole, mais en soi...
Oui, et il y a encore des ponts magnifiques, mais légèrement postérieurs, dans l'Empire ottoman, ce sont... enfin, il n'y a pas que des ponts, mais des ponts, les ponts de Sinan, de l'architecte Sinan.
Sinan,
qui sont magnifiques.
Oui, oui, et même si ces mosquées sont quand même sont plus célèbres, mais les ponts sont aussi effectivement magnifiques. Sinan, alors il a failli apparaître dans le livre, mais pour des raisons de chronologie... c'était pas possible, puisqu'à l'époque où Michel-Ange va à Constantinople, Sinan n'est encore qu'un jeune soldat dans les Balkans. Mais j'aurais bien aimé qu'il rencontre Michel-Ange, évidemment. Mais non, c'était pas possible.